10h33. Il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, vous voulez nous en faire part, c'est le 88-971-101, vous êtes nos yeux, nos oreilles. Pendant les entrevues aussi, vous avez des choses à nous dire par texto, ça fonctionne bien. Le pont de Québec qui a rouvert ce matin, qui était fermé en fin de semaine,
ça a occasionné,
c'est ce matin,
ah oui,
5h de mémoire.
Ah, ils nous ont menti. Parce que vendredi passé, ils nous ont fait la surprise, comme ça, ça arriverait dimanche matin, tout le monde était bien heureux, on se trouvait une journée, tu sais. Fait que ouais. Finalement, ce matin.
Ben, moi, c'était ça qui était annoncé vendredi, là.
Okay.
Mais normalement, c'était ce matin, 5h. Cela dit, il y a eu quelques accrochages sur le pont Pierre-Laporte hier. Ça a occasionné plusieurs minutes d'attente. Mm-hmm. Certains ont attendu comme 2 heures pour traverser sur la rive nord ou sur la rive sud. On vous salue. Ce sera ça pour une couple de fin de semaine encore, le temps que l'hiver s'amène. Donc, on lâche pas. On part plus tôt, les amis. Sur la route?
Il y a quelques ralentissements si vous êtes sur la 20 direction ouest en ce moment à la hauteur de Taniata. Guillaume Couture aussi à la hauteur de la route du président Kennedy. C'est pas mal tout ce qui ralentit pour le moment. Évidemment, quoi que ce soit d'autre, c'est le 88-971-101 texto.
Ouvert hier matin. J'ai passé dessus à 16h. Donc, ils nous ont donné une journée de gratis.
Oui. Ah, c'est ça qui s'est passé. C'est fin, hein?
Oui. Hey, on parle de gros sujets de politique. Pas tout le temps dans l'open mic, bien honnêtement. Je pense que depuis le début de cette émission-là, c'est la première fois qu'on parle ouais. de politique. Mais on s'est dit, on va aller chercher quelqu'un qui est foncièrement humain.
Oui.
Hein,
mais
pour parler de politique.
Je pense que c'est l'angle qu'on va utiliser qui fait que ça se rattache bien à l'open mic parce que, puis c'est très personnel ce que je veux dire, là, je sais qu'Yann, toi, la politique, tu suis ça solidement puis t'aimes ça, puis t'es très allumé par le positif ou le négatif de la politique. Puis moi, je vais être transparente, j'ai comme une impression que la politique m'a beaucoup perdue dans les dernières années. Et pourtant, tu sais, c'est comme ma job, on dirait, de la suivre à travers ce que je fais au quotidien. Mais j'ai comme l'impression que ce qu'on voit dans les médias, c'est le plus banal de la politique, le moins pertinent de la politique. Puis j'ai l'impression que mon intérêt a comme descendu dans les dernières années, au point où, quand j'écoute Denis, mettons, l'après-midi, dire que lui, il vote plus, puis il faut son érection politique, puis ci, puis ça, des fois, je me colle un peu à ce discours-là parce que j'ai l'impression que je ne saurais pas pour qui voter. Je suis comme un peu perdu à travers la game politique. Puis il y a une question qui me trotte en tête depuis une couple de semaines, puis c'est par rapport au futur aussi de la politique. T'sais, est-ce que les jeunes en ce moment s'intéressent encore à ça? Puis je dis les jeunes, la population en général, c'est-tu de notre faute? C'est-tu de leur faute au gouvernement? Puis je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière ça. Puis n'hésitez pas à commenter ou si vous avez des questions, 971-101, parce qu'on a une pro avec nous ce matin.
Oui, madame, oui, monsieur. Antonine Iacarini qui est là, analyste politique et spécialiste en affaires publiques. Salut, Antonine.
Salut, merci de me recevoir pour ce sujet-là qui vraiment me passionne.
Oui, c'est-tu quelque chose auquel tu réfléchis souvent? Comment faire pour amener les jeunes à s'intéresser à la politique?
Les jeunes, mais les moins jeunes aussi, parce que Audrey le disait, c'est pas seulement les jeunes. On sent un désintérêt qui est beaucoup plus large, mais c'est particulièrement criant chez les jeunes.
Ouais.
Puis moi, ça fait beaucoup partie de mon engagement. C'est-à-dire que je fais de l'analyse politique dans les médias maintenant que je ne suis plus dans la politique active comme telle pour 2 raisons. Une qui est égoïste, parce que j'aime ça puis que ça me fait plaisir. Mais une qui est un petit peu plus... purpose, là, que je mets entre guillemets, c'est que je pense qu'on a une meilleure société quand les gens s'impliquent dans leur communauté. S'impliquer dans la communauté, ça peut être de plein de manières, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui laissent le terrain politique complètement libre, puis ils se font gérer, puis ils prennent pas leur place. Puis j'aime réfléchir aux raisons qui expliquent cette situation-là, parce que je pense qu'on a une société meilleure quand tout le monde s'implique un petit peu davantage. Fait que ça, c'est comme un peu ma raison de vulgariser puis d'essayer de baisser le cynisme un peu à travers, des fois, amener une autre perspective.
Bon. Mais c'est vrai que les gens sont cyniques. J'ai l'impression, en fait, que les gens ont juste laissé tomber. Du genre, oh, on est tellement déçus que rendu là, je vais vivre ma petite vie de façon très individualiste. Je vais m'occuper de mes petites affaires. Je vais aller faire du bénévolat pour moi, faire une différence dans la société. Mais j'ai l'impression qu'on tord de côté un peu le gouvernement puis la politique parce qu'on a l'impression que peu importe ce qu'on crie, qu'on dit, qu'on veut, ça changera rien.
T'as raison. Puis je pense que c'en est une des raisons pourquoi les gens ne s'impliquent pas. C'est que ça donne pas des résultats automatiques. C'est long, hein? C'est la politique, ça représente beaucoup de gens. Un gouvernement, ça représente beaucoup de gens puis beaucoup d'intérêts qui sont différents. Et tu as peut-être l'impression d'avoir un impact plus important quand tu t'impliques, par exemple, auprès d'une OBNL, une bonne cause, un groupe de pression même. Ce que tu fais, ça a un impact que tu vois
direct.
Plus rapidement, qui est direct. La deuxième explication, c'est que je pense qu'elle est culturelle, c'est qu'au Québec, on n'aime pas beaucoup la chicane. Mettons que vous voyagez un peu ailleurs dans le monde, vous allez voir que des débats autour de la table au souper, il y en a plus régulièrement.
Juste regarder les débats qu'il y a en France.
Ben oui.
Dans des talk shows, Et tu sais, moi, j'étais avec quelqu'un à un moment donné, puis ben, en fait, c'est la mort de mes enfants, puis on écoutait un débat en France, puis elle dit « Ah, je suis pas capable, ils arrêtent pas de s'ostiner, là, ils s'entendront jamais, je suis pas capable, on peut te changer de poste.
» On est mal avec ça.
Je sais pas pourquoi.
Ben, je pense qu'il y a probablement des raisons culturelles, historiques à ça. Moi, j'y vois aussi un traumatisme des référendums. Les référendums de 1980 et 1995 que la jeune génération n'a pas connu d'ailleurs, mais que les gens de mon âge, on était, moi j'avais 10 ans là, lors du référendum de 1995, ça a créé beaucoup de chicanes à l'intérieur des familles, hein, des déchirements. Il y a des gens qui sont plus amis après le référendum parce qu'il n'y avait pas la même position. Puis on voit que les questions politiques et les questions religieuses au Québec, ça crée des fois des tensions, puis on est très, très mal à l'aise avec ça, alors que moi, par exemple, la moitié de ma famille est d'origine européenne, on est italien. Moi, mon grand-père, autour de la table, il nous demandait notre avis sur n'importe quoi. Le conflit israélo-palestinien, t'en penses quoi? Antonine, 9 ans, go! Puis il n'y avait pas de mauvaise réponse.
Jeunes, là.
Ben, c'est ça, mais il n'y avait pas de mauvaise réponse, puis on n'était pas nécessairement d'accord à la fin du souper, puis on passait à un autre appel, c'était pas grave.
Ouais. Mais ça se peut-tu que ce soit une question de pertinence? Parce que, personnellement, moi, les débats m'intéressent. Moi, j'aime ça quand le monde s'ostine. J'aime ça quand il y a des réponses qui sortent. Ce que j'aime pas, par exemple, c'est du monde qui se crie dessus puis qu'il n'y a rien de pertinent comme propos qui sort, que ça devient personnel puis ça ne sert plus la communauté.
Penses-tu que la couverture des médias y est pour quelque chose? Parce que ce qu'on voit dans les nouvelles, c'est ce qui est le plus croustillant. Ouais. C'est la contradiction, c'est l'erreur, le scandale, etc. Puis on a tous un rôle à jouer là-dedans, comme chroniqueur, comme animateur, comme journaliste, etc.
Mais en même temps, c'est le nombre de clics maintenant qui détermine ce qui va être pris.
Parce que tantôt, Audrey disait c'est la faute à qui? Ouais. Ben, c'est un peu la faute à tout le monde. Puis il y a des éléments que je pense sont très inconscients. Ouais. La semaine passée, j'étais sur un panel télévisé et on parlait de... Parce que Louis Lemieux, un député de la CAQ, disait qu'il y a trop d'opinions dans les médias, trop d'opinions. Puis on a décidé de se regarder dans le miroir au panel puis se demander s'il y a trop d'opinions dans les médias. Hey, le nombre de commentaires que j'ai reçus, là, tout le monde disait « Oui, il y a trop d'opinions, il y a trop de commentateurs. » Mais ça marche en même temps. C'est ça que les gens nous demandent beaucoup. Les panels, ça fonctionne, ça crée des débats, ça crée des discussions, ça crée du trafic sur les plateformes. Donc, à la fin, ben, il se passait de l'offre puis de la demande aussi là, à un moment donné. T'sais.
OK, là, la discussion va trop bien. Est-ce que les journalistes sont responsables de quelque chose dans le fait que les lecteurs, les auditeurs ou encore les téléspectateurs ont décroché de la politique? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'activisme, de militantisme parmi les médias? Est-ce que de l'autre côté, les citoyens ont l'impression que les politiciens les écoutent? Moi, il n'y a rien de pire. Puis là, je sais que ça va peut-être accrocher, Antonine. Mais il n'y a rien de pire qu'un politicien qui dit là, ça, c'est du populisme, moi, mais t'as été élu par la population. De faire ce que la population te demande de faire, tu es le représentant de cette population-là, c'est pas nécessairement du négatif. T'sais. Si la population a besoin de telle ou telle chose, toi, t'es qui pour dire que c'est le contraire que la population devrait avoir? Les gens semblent désabuser un peu de la politique au Québec. On suit un peu la politique internationale, puis ça semble être généralisé, ça, ce cancer-là, de la fracture entre le politicien puis son... Puis là, je n'aimais pas toutes dans le même panier, là, mais entre le politicien puis son électorat, il y a une fracture. C'est rendu que le politicien peut mentir sans gêne pendant les élections, puis après ça, revenir sur sa parole lorsqu'il a été élu. À un moment donné, tu te dis, OK, mais attends un peu, là, moi, ce gars-là, il est là, je l'ai mis au pouvoir, maintenant, il me ment. Puis après ça, quand je veux quelque chose, il me dit que mes idées, c'est juste du populisme, c'est basé sur absolument rien. Puis tu vois qu'il est à coquiner avec certains médias qui vont toujours voir les 4 ou 5 mêmes spécialistes qui sont toujours d'accord. Tu sais, je me souviens pas qui avait sorti ça. Je pense que c'était-tu Simon Clich dans Le Soleil qui parlait du journalisme militant, du journalisme activiste, puis qui disait que parfois... Le papier est écrit, puis après ça, il s'en va chercher les témoignages chez les spécialistes qui vont en lien avec son papier.
Mais c'est absolument vrai, là, ça, ce phénomène-là existe.
Mais ça, Antonine, je veux dire, comment on peut se dire, ah, mais on comprend pas pourquoi les gens ont décroché de la politique. Peut-être qu'on est tous responsables, tant les électeurs que les journalistes, que les commentateurs, que les politiciens.
Oui, il y a un bout de responsabilité qui se trouve chez les médias, puis moi, j'ai absolument pas peur de le dire. T'sais, on a des réflexes d'aller vers ce qui est le plus croustillant. La première explication, il y a beaucoup de choses dans ta question et dans ton éditorial qui est ma foi, très... Puis ça m'accroche, puis ça m'accroche pas en même temps, parce que je suis d'accord avec quand même 75% de ce que tu dis.
Ah, j'ai pas été assez raide.
Ouais, la prochaine fois, donne un petit peu un tour de roue là, d'agressivité. Non, sans faire, c'est que... Moi, ce que je déplore, c'est quand on cherche toujours la mauvaise nouvelle. Là, pour moi, ça, on alimente le cynisme. C'est tellement difficile de placer une bonne nouvelle dans les médias, puis on cherche la bibitte, puis on cherche un peu là, ce qui va faire défaut, là, puis qui va être un peu contradictoire. Il se passe plein d'affaires, par exemple, à l'Assemblée nationale, où qui font pas chicane. Là. Il y a plein d'affaires qui se règlent dans le corridor. Il y a plein d'affaires qui se règlent de façon non partisane. Mais ça, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Ça intéresse pas beaucoup les médias de façon générale. Moi, je pense que tout le monde devrait faire un effort de dire au moins une bonne nouvelle par jour. Puis politique, là, pas juste la bonne nouvelle, une OBNL a fait un bon geste, c'est super. Mais en politique aussi, il se passe des belles affaires des fois. Moi, je pense que c'est un effort qu'on devrait faire parce que oui, c'est du cynisme à la fin de la journée.
Oui.
Et bon, les promesses brisées, pour moi aussi, c'est une cause de cynisme. Par contre, où est-ce que j'accroche dans ce que tu dis? C'est quand tu dis « c'est rendu qu'un policier peut... »
Mentir.
Qu'est-ce qui a changé? Ça a toujours été de même. En fait, je trouve ça plus difficile maintenant pour un politicien de briser une promesse avec le niveau d'information auquel on a accès. Tu sais, dans les années 30, là, t'allais sur la Côte-Nord faire un discours à un syndicat, puis après ça, t'allais faire un discours à Montréal au patronat. Tu pouvais dire une chose et son contraire, on l'aura jamais su.
On n'entendait pas parler, ouais.
Tu sais, fait que je trouve quand même qu'on met la lumière sur beaucoup de choses maintenant. L'état des médias aussi au Québec fait en sorte qu'on a moins de journalisme d'enquête, on a beaucoup de coupures dans plein de médias. C'est difficile pour les journalistes de faire leur travail. Ils sont souvent... envahi de relationnistes, et j'en suis, tu sais, j'en fais partie, hein, je suis consultante dans la vie, puis je fais des relations de presse des fois, et c'est vrai qu'ils sont pas nombreux, les journalistes dans les salles de presse, ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc ça aussi, je trouve que ça vient un peu baisser la qualité de ce qu'on peut faire comme couverture de la politique.
Ah, parce que tu vas poser la question qui est punchée, puis je veux dire, tu creuses pas tant, là.
Bien, t'as pas le temps de faire une énorme enquête, des recherches, d'aller tourner. Fait que, tu sais, Yannick, quand tu disais, ils se retournent toujours vers les mêmes personnes, c'est, moi, j'y vois pas un complot, mais tu sais, j'y vois plus un réflexe efficient, c'est-à-dire j'ai toujours les quatre mains.
Mais quand le papier est déjà écrit, c'est de la mauvaise foi un peu. Là.
Ça, oui, puis il faut le déplorer en passant, parce que quand tu abordes un nouveau sujet, un enjeu, j'espère que les gens l'abordent avec ouverture, d'aller voir différentes perspectives, puis après ça, d'essayer de présenter l'information de la façon la plus factuelle possible. Mais même le journaliste le plus neutre, à un moment donné, le titre qu'il va choisir, qu'est-ce qu'il va mettre de l'avant en premier, en deuxième, quel spécialiste il va aller voir, quel expert il va aller voir, c'est tous des choix. Hein? Fait que l'objectivité pure, elle n'existe pas. Je me permets de revenir, parce que ça, c'est le phénomène comme global. Là, je m'en vais un peu plus sur les jeunes comme tels, parce que là, on parle des médias. Breaking news, là, les jeunes n'écoutent pas les bulletins de nouvelles. Je veux juste être bien, bien clair. Donc, c'est encore plus limité les moments qu'on a pour les rejoindre puis leur parler de politique. Puis la façon dont on consomme les médias maintenant, moi, ma mère, elle s'assoyait dans la TV à 22h, elle écoutait le téléjournal. Là, il y avait la nouvelle du jour de la politique, il y avait du judiciaire, il y avait du sport, il y avait du culturel, puis il y avait la météo. Donc, même si ça l'intéresse moins, le sport, elle savait ce qui se passait en sport, mettons, OK, juste par exemple. Maintenant, la façon dont on consomme les médias, c'est un algorithme qui te pousse tes choses. Là. Mettons que tu vas sur les plateformes de médias sociaux, on va te pousser ce qui t'intéresse déjà.
Ouais. Mettons que tu es pro Québec solidaire ou pro, mettons, on va au fédéral avec Pierre Poilievre, tu vas avoir que des nouvelles qui touchent Québec solidaire ou que des nouvelles qui touchent Pierre Poilievre.
Donc, le beau forum numérique qui nous donnait accès au monde, finalement, c'est une chambre d'écho à 99 % du temps.
Exact.
Puis, les podcasts, les blogs, on va écouter les infolettes auxquelles on va s'abonner, ben ça vient nourrir ça. Les gens vont vers ce qu'ils veulent. Donc, moi, si je m'intéresse à la politique, je vais en avoir en tabarouette là, du contenu politique, mais j'en ai plus de contenu culturel. Je sais même pas ce qui se passe. Je sais pas c'est qui les chanteurs populaires. Etc. J'ai aucune idée parce qu'il faudrait que je fasse l'effort d'aller regarder ça, puis l'algorithme va pas me pousser ça. Mon Netflix, mes podcasts que j'écoute, etc., vont me pousser seulement ce que je veux. Donc, aller rejoindre les jeunes, les intéresser à la politique, quand l'envie, à la base, n'est pas là, c'est un défi énorme. Incroyable.
Oui. Tu parlais du journalisme d'enquête tantôt, Audrey. Je parlais avec un journaliste il y a de ça quelques années, quand l'ère du numérique est arrivée, là, avec, mettons, le journaldequebec.com, où le site web avait complètement changé, puis les nouvelles les plus populaires étaient mises de l'avant sur ta page quand ça ouvrait, ben eux autres, il y avait la même chose dans la salle des nouvelles.
Ah ouais.
Donc, le journaliste pouvait voir en temps réel sa nouvelle performée ou pas. Ce qui fait en sorte qu'un journaliste d'enquête, qui a fait une enquête pendant des semaines et des semaines puis qui met le papier en ligne versus le sac de chips qui était au départ joint avec le Journal de Québec. Le sac de chips était tout le temps top,
mais
top,
c'est
top.
Sûr.
Puis le sac de chips, tout le temps des niaiseries.
Ça nivelle un peu par le bas. Là, j'adore le sac de chips en passant, ouais. Mais ce phénomène-là du clic, de la course au clic, c'est sûr que ça nivelle un peu par le bas.
Fait que t'avais une grosse enquête qui avait pris des semaines, qui touchait, je sais pas moi, la corruption en politique, dans la construction, blablabla. Qui était relégué au dernier rang, puis t'avais le chat qui, je sais pas moi, qui était déguisé
Batman,
en la poupée de Chucky, qui était au premier rang. Fait que t'ouvrais le journal de Québec.com.
Sans dit long sur nous autres, par exemple.
Mais sans dit long, oui, mais après ça, ils l'ont comme ajusté.
Ouais.
Mais imagine-toi le journaliste qui se fait dire, ouais, mais toi, tes papiers sont pas lus.
Ouais, ça pogne pas.
Fait qu'il se dit, ouais, mais pourquoi je fais ma job? T'sais, fait ouais. À un moment donné, ils ont comme changé les choses. Ça fait en sorte qu'ils ont tassé complètement le sac de chips. C'est devenu juste un site web. C'est une bonne chose, là aussi. Je regarde ça, ça
de
me fait
rire des
fois.
De séparer un peu les choses.
Mais là, les articles importants, il faut qu'ils
mais
soient
ça fait,
en première
ça
page.
Ça fait aussi partie de l'évolution du journalisme en soi. C'est ouais. Plate à dire, mais je veux dire, à mon sens, puis c'est très personnel, mais j'ai l'impression qu'il n'en existe plus beaucoup des vrais et bons journalistes qui font leur travail de façon neutre jusqu'au bout, qui mènent des gros ouais. Dossiers. Tu sais, on est un peu dans ce qu'on disait tantôt, c'est le facile, le clic, ce qui va intéresser les gens. On pose la question que tout le monde, tu sais, tout le monde veut savoir. C'est difficile de s'y retrouver. Est-ce que la transparence joue aussi dans le fait que je vais dire encore les jeunes, là, mais les gens en général ont moins confiance. Je sais pas comment ça marche au niveau de l'équipe de com, mais des fois, ce serait-tu difficile de juste dire comme, hey, je l'ai vraiment échappé à ce niveau-là. Voici comment on pense régler le problème.
La game politique fait en sorte qu'on va être beaucoup dans la ligne de parti, qu'on va essayer d'enlever le plus de contradictions possible. C'est difficile de s'excuser puis d'admettre une erreur. Je pense que la transparence, c'est vraiment un aspect intéressant que tu amènes parce que le manque de transparence fait baisser la confiance, mais paradoxalement, la transparence fait augmenter le cynisme aussi. Parce que dans les dernières années, les enquêtes sur la corruption, par exemple, tu sais, Gomery à Ottawa, ça fait plusieurs années maintenant, mais Charbonneau ici au Québec.
Commission Gomery avec Jean Chrétien qui arrive avec ses balles de golf.
C'était, ouais, ceux qui n'ont pas vu ça, là, parce que là, on parle des jeunes, ils n'ont pas vu ça. Nous, ça a ouais. Été un moment marquant
mais
de nos vies.
Jean Chrétien se fout éperdument de la commission puis qui arrive avec ses balles de golf, là, c'était
absurde.
C'était un cirque, là.
C'était un cirque. Ça, c'est censé mettre la lumière sur un certain nombre de choses et ça vient augmenter un peu le cynisme puis faire baisser la confiance des gens parce que, un, on a toujours l'impression de ne pas être allé au bout des choses puis d'avoir vraiment mm-hmm. su la vérité. Mais en plus, on met la lumière sur une certaine vérité qui n'est pas toujours belle à voir. Donc, la transparence, c'est un couteau un peu
mais je
à
pense
double
que tranchant. La, je pense que la transparence, on l'a vu de la part des politiciens. T'sais, moi, si j'ai une transparence à travers le travail d'un journaliste, j'étais encore plus cynique par rapport aux politiciens parce que je me dis, OK, il a fallu que quelqu'un creuse avec une pelle pour trouver ça. Là.
On l'a vu. Puis en même temps, quand un politicien est transparent, on le ramasse, puis on l'attaque. C'est malheureusement, tu sais, tantôt on parlait du journaliste puis des tendances puis de chercher le clic, mais le politicien, il cherche à éviter les problèmes. Puis à chaque fois qu'il y a un politicien, je trouve, qui dit un peu les vraies affaires. Puis là, je vais quand même me rendre un petit hommage à Pierre Fitzgibbon. Il n'y en a pas eu beaucoup d'hommages cet automne, Pierre Fitzgibbon, fait que je vais y en rendre un. Il y avait quand même cette authenticité-là mm-hmm. de dire les choses telles qu'elles étaient et ça brassait, puis le monde n'aimait pas ça, puis les gens étaient dérangés, mais j'avais vraiment l'impression qu'il disait le fond de sa pensée quand il s'adressait aux journalistes qui étaient comme « moi, je vais pas faire semblant, ça me tombe pas ».
Mais peut-être que les balles qu'il a reçues, il les méritait, là, dire aux gens de partir le lave-vaisselle à minuit le soir, de faire le lavage à minuit le soir, que ça allait être ça, le futur.
Moi, je pars mon lave-vaisselle à 22h. J'ai mis une petite photo de Pierre Fitzgibbon.
T'es dans une maison. T'es dans une maison.
Ben oui.
Imagine-toi dans un immeuble à logement. Tu sais, la laveuse qui est mal calibrée à 2h du matin.
Fait le cycle de spin à 23h.
En même temps, tu sais à qui tu as affaire. Puis moi, c'est ce que j'admire et que je respecte. Surtout pour moi, la notion de respect est super importante là-dedans. Je préfère un politicien qui va se faire critiquer de tout bord, de tout côté, mais pour ce qui est réellement, puis qui va assumer ce qu'il dit, puis ce qu'il pense, pour moi, ça résonne bien plus, puis ça me donne bien plus envie d'être à l'écoute. Moi, je sais que la transparence, c'est vraiment un gros enjeu pour moi.
Puis, tu parles de ce qui résonne chez toi, puis ce que tu attends des politiciens, puis ça, c'est l'autre élément. C'est un élément de générationnel aussi, mais les jeunes, à la base, s'intéressent moins à la chose publique, je pense, hypothèse là, que je teste avec vous, aussi parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux qu'en vieillissant. Okay? Un jeune de 20 ans, premièrement, tu as la vie devant toi, tu te penses un peu invincible.
Oui.
Ta priorité, c'est de sortir, d'avoir tes amis, tes études aussi, probablement. Tu n'es pas un grand utilisateur du système de santé. tu ne payes pas beaucoup d'impôts à 20 ans. Donc, en vieillissant, naturellement, tu commences à comprendre l'impact des décisions gouvernementales sur ta vie à toi. Fait qu'à la base, un jeune, pour l'intéresser à ces choses-là, c'est déjà un défi. Mais il y a des aspects générationnels aussi. Tu sais, on a grandi. Moi, j'ai 40 ans. Fait que je me considère un peu, des fois, jeune quand je regarde, par exemple, les gens qui sont à politique, mais je me sens très vieille, par exemple, dans mon milieu de travail, parce que je travaille avec des gens plus jeunes que moi. Fait que je me fais un peu le casque bleu là, entre les générations. Je trouve que les plus jeunes sont très impatients, ce qui est l'apanage de la jeunesse en général, mais de plus en plus. T'sais, on est dans un monde d'instantanéité. Moi, si j'ai le goût de me commander une boîte de 12 beignes de Krispy Kreme à 23 heures, j'ai juste à prendre mon téléphone, puis dans 20 minutes, j'ai une boîte de Krispy Kreme. La politique, c'est pas ça. C'est long, ça demande beaucoup de négociations. J'ai l'impression qu'il y a des éléments des générations plus jeunes qui ont grandi dans des familles avec moins d'enfants, qui ont peut-être eu à faire moins de compromis un petit peu. On est dans une société plus individualiste aussi, un petit peu plus chacun chez soi. La pandémie a dû aussi probablement exacerber tout ça. Mais quand tu arrives en politique puis tu veux t'impliquer, puis on voit beaucoup de jeunes politiciens qui abandonnent rapidement. T'sais, on l'a vu l'année passée, Émilie de Sartérien, qui est devenue chef, puis après 4 mois, ça ne tentait plus parce que ça ne faisait pas son affaire. Je résume vraiment, il y avait sûrement des bonnes raisons aussi. Puis on a vu des jeunes maires, mairesses abandonner, des conseillers municipaux. Mais moi, j'y vois quand même un aspect de cette génération-là qui voudrait que les choses aillent plus rapidement, mais qu'à un moment donné, il faut faire des compromis. Puis ça, en vieillissant, j'ai l'impression qu'on le comprend plus aussi. Tu sais, t'as vécu plus de situations de conflit, puis à un moment donné, tu te mets à voir ça dans une perspective un peu plus large, puis tu le sais que ça fonctionne pas nécessairement de juste exiger puis dire « je veux ça tout de suite ».
Mais c'est pas évident non plus. J'ai l'impression que ça... Tu sais, moi, je regarde, mettons, le maire Marchand, puis sans parler de son travail puis ses décisions, puis juste le maire Marchand en soi, là. Moi, ce que j'ai observé vite de même, là, sans analyse, là, c'est que c'est un gars qui était très optimiste quand il est rentré à la mairie.
Ouais. Ouais, il mentait beaucoup pour rentrer à la mairie.
C'est un gars... Ben, je veux pas aller là. Je veux vraiment juste prendre le principe de... C'est un gars qui avait l'air d'avoir plein d'idées, puis de penser, là, tu comprends, que tout était possible. Puis j'ai comme l'impression, puis je sais pas comment ça fonctionne à l'interne, mais que c'est fessé à beaucoup de portes qui font qu'il n'y a rien qui marche. Puis aujourd'hui, on le regarde quelques années plus tard, il a l'air aigri déjà de ce qu'il fait. Puis moi, comme plus jeune, je regarde ça, puis je me dis, si demain matin, j'ai une opportunité de me lancer en politique...
Ça te donne pas le goût, ben.
Et tabarnouche que j'ai pas le goût de me remonter.
Il aurait peut-être pas eu le vent en face qu'il y a là actuellement.
Avec
s'il y avait... S'il avait utilisé la stratégie de départ, c'est-à-dire...
Ah, mais prends n'importe quel politicien, ils finissent tous aigris.
Peut-être. Mais est-ce...
Oui, puis tu as raison aussi. Je trouve que vous avez tous les deux raison, parce que c'est vrai qu'il y a quelques-uns de ces maires et mairesses-là qui sont arrivés avec une idée dans leur tête, puis ça ne s'est pas passé comme ils voulaient. Je pense à la mairesse de Gatineau, la mairesse de Sherbrooke, là, qui a une qui a annoncé qu'elle ne se représentait pas, puis une qui a quitté. Il y a comme quand même un fil conducteur, je trouve, avec cette nouvelle génération de maires-mairesses-là.
Qu'est-ce qui fait en sorte que, quand on entend parler les politiciens, ils mettent des priorités pour la société en général, puis quand on passe un sondage dans la société en général, c'est souvent paru dans la presse, non, pas dans la presse, excuse-moi, dans le Journal de Québec, avec des sondages légers sur la priorité, tu disais un peu, là. D'un côté, les politiciens disent ce qui est important, c'est décarboniser tout, après ça, l'environnement, patati, patata, puis de l'autre côté, pour l'électeur moyen, c'est l'économie. Lui, ce qu'il veut, l'électeur moyen, c'est que l'économie avance, mais le politicien est comme pro-environnement. Moi, à la station, je ne sais pas si c'est moi le plus environnementaliste, mais en tout cas, dans ma rue, je te le confirme, pas mal moins qui fait tout ce qu'on me demande de faire, à part que j'ai une tondeuse à essence. Je m'en excuse. Puis j'aurais dû m'acheter une chèvre.
À la station, tu tues des arbres en moyenne à peu près comme 7-8 par jour, probablement.
J'ai mon iPad. Oui, j'imprime mes courriels.
Mais il est moins pire, je dois te le dire, mais il y a un moment quand il est arrivé ici, là, il t'imprimait des feuilles à pu finir pour se dire on va manquer de papier.
Fait que là, je me suis acheté un iPad. Mais ce que je veux dire, c'est d'un côté, les politiciens nous disent voici nos priorités, puis après ça, l'électeur moyen, dont je fais partie, dit, attends un peu, moi, là, faut que l'environnement soit là dans le top 10, mais l'économie, l'emploi, la santé, ça, l'éducation, faut que ça soit mis de l'avant constamment. Mais le politicien, tu sais, je me souviens d'un Philippe Couillard qui était venu en entrevue, puis il nous avait dit, ça, c'était dans le début du tramway, il nous avait dit, moi, à Québec, tout le monde me parle de tramway. Puis j'avais dit, Monsieur Couillard, le citoyen ordinaire ne peut pas vous jaser. C'est pas lui qui vous parle, c'est les gens qui vous parlent. C'est vos lobbyistes, c'est vos assistants, c'est vos conseillers, mais la population en général n'a jamais l'occasion de vous jaser, tu sais.
Mais comment on peut briser ce mur-là?
Ça prend des êtres humains normaux.
Ben bon, c'est ça. Là, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. La première des choses, c'est que le vrai monde, n'est pas toujours représenté chez les élus. Là, je le dis vraiment en guillemets « vrai monde », parce que tout le monde est du vrai monde en bout de ligne, mais les gens dont tu parles, Yannick, puis qui ne parlait pas à Philippe Couillard, l'Assemblée nationale, elle n'est pas représentative de la population en général. T'sais, tantôt, on parlait des jeunes, par exemple. Est-ce qu'un jeune de 30 ans va avoir tendance à vouloir devenir député? La réponse, c'est non. T'sais, même moi, mettons, je suis un bon exemple. Je me considère pas si jeune que ça, j'ai 40 ans. Mais en politique, 40 ans, c'est comme si j'avais 25 ans. C'est pour ça, d'ailleurs, que je continue de baigner dans le monde politique, ça me fait sentir jeune. Je me fais des fois proposer de me présenter. Pourquoi tu te présentes pas? Pourquoi tu te présentes pas? Premièrement, moi, je suis au cœur de ma carrière à moi, là, t'sais, que je mène puis que ça va bien. Et j'ai un enfant de 7 ans. C'est pas le bon moment. Fait que ça fait en sorte que soit que les gens qui deviennent députés jeunes, c'est parce que c'était le but de leur vie d'être élus, ça fait des politiciens de métier. Donc là, je le mets encore une fois entre guillemets, mais c'est pas du vrai monde entre gros guillemets, parce que ils ont pas nécessairement eu d'autres carrières, ils ont pas nécessairement connu autre chose. Puis, le cas le plus classique, c'est j'étais en fin de carrière, j'ai 55, 60 65 ans, même des fois.
T'es-tu un peu déconnecté aussi, peut-être, rendu là? C'est un gros préjugé.
T'es moins connecté sur les priorités des jeunes, c'est évident. C'est évident. Donc, il n'y en a pas tant des jeunes à l'Assemblée nationale parce qu'on a d'autres priorités quand on a entre 25 puis 40 ans. Nos enfants, notre famille, notre carrière, etc. Puis aussi, des fois, peut-être qu'on est encore un peu plus sensible à la critique. En vieillissant, t'en as reçu plus, tu te renforces. En tout cas, moi, je trouve qu'en vieillissant, je me renforce énormément. Là, quand j'ai commencé, quand j'étais porte-parole, dans le temps que j'étais en politique, ça me faisait de la pépine de recevoir des commentaires, là, puis de me faire dire que j'étais pas belle, puis que... Tu sais, ça me dérangeait. Maintenant, je m'en fous comme de l'an 40. Là, je me suis fait une carapace avec le temps. Fait que ça aussi, ça fait en sorte que nos politiciens ne nous représentent pas. Puis sur les priorités, bien... Là, je suis un peu en désaccord avec Yannick parce que tu me dis que la priorité des gouvernements, c'est l'environnement, alors que je trouve pas que c'est nécessairement ça qu'on met de l'avant tant que ça pendant les élections.
C'est ce qui ressort dans les médias.
Je pense que dans les médias, effectivement, c'est plus présent. Mais, par exemple, prendre le gouvernement de la CAQ...
Je parlais avec un gars de 30 ans, il y a 2-3 semaines. Je ne sais pas si Audrey était avec moi. Il y a 30 ans, là, c'est un homme assumé, il ne se pose pas mille et une questions, mais il dit... Je ne sais pas si je vais avoir des enfants parce que l'environnement, ça va pas bien. Je me suis dit, mais quel genre de... Tu étais là avec moi, hein? Je me suis dit dans ma tête, mais quel genre de société qu'on est en train de bâtir?
Ben, nos enfants, très anxieuse,
ça, nos enfants se posent des questions à savoir si leurs propres enfants vont survivre en raison de la pollution. Je veux dire, il faut faire attention à notre environnement, mais on fait des efforts. Au Québec, on est les meilleurs pour ce qui est de la production des gaz à effet de serre. On est les meilleurs. C'est nous qui en produisons le moins par rapport au Canada. Et ça vient de François Legault.
Pas par tête, par contre. Per capita, on n'est quand même pas si bon que ça. Par contre, on a un grand territoire, puis on a des défis. On a un hiver qui dure 6 mois par année. Fait que, à un moment donné, moi, je suis pas pour l'auto-flagellation non plus. Il faut souligner aussi les bons coups. Mais si tu prends le gouvernement de la CAQ, la CAQ, les priorités qu'ils ont mis de l'avant depuis 6 ans, c'est économie, santé, éducation, puis l'identité. Okay? L'environnement arrive un peu en cinquième. Puis l'environnement, c'est que ça va être dur de mettre ça de l'avant parce qu'on demande aux gens de faire des sacrifices puis de changer leurs habitudes. Puis ça, généralement, c'est pas très populaire auprès de l'électorat, comme par exemple pour ta tondeuse, là.
Oui, j'aurais dû m'acheter une chèvre, je m'excuse.
Ben oui, c'est cute en plus, des chèvres. Les enfants aimeraient ça.
Sauf que la chèvre, elle peut péter. Puis là, des pets, là.
Ça fait des gaz à effet de serre.
Ça fait des gaz à effet de serre.
On s'en sort pas, hein?
On s'en sortira pas. Mais c'est pour ça que l'environnement est mis de l'avant beaucoup dans les médias parce que c'est un enjeu important. Il y a une crise climatique, comme vous savez. Mais du côté des politiciens, moi, je trouve que Québec solidaire met beaucoup de l'avant à l'NPD, puis Justin Trudeau jusqu'à un certain point sur la scène fédérale aussi.
Fitzgibbon était pas mal là-dessus aussi, là.
Bien, Fitzgibbon, là, je vais le défendre encore, puis je ne reviens pas que je me mets à être la défendresse de Pierre Fitzgibbon. Là. Ça donne de même, puisqu'on a souvent des
discussions. Mais tu as le droit de te tromper, Antonine.
Bon, merci. Oh, tu as le droit d'avoir tort.
Mais je m'excuse.
Ça ne me dérange pas.
Je ne sors pas souvent.
Je vais le défendre, OK? La question de Pierre Fitzgibbon, je pense pas que c'était d'être idéologique sur la crise climatique, c'est qu'au Québec, on a une énergie qui est propre, mais on la prend, puis elle n'est pas si chère que ça si vous comparez avec le reste de la planète. On ne paye pas nos factures d'électricité
Antonine,
si chère que ça.
Attends, on est les citoyens les plus imposants en Amérique du Nord.
On est d'accord.
Si tu manges dans ton propre restaurant, vas-tu payer le même prix que tout le monde?
Je vais au bout de mon idée. Notre électricité, on ne la paye pas si chère que ça, mais on paye des impôts, tu as 100% raison, puis qu'à quelque part, on finit toujours par payer. Mais je pense qu'on la prend pour acquise, puis je pense qu'on la gaspille beaucoup. Puis j'en vois des exemples de gaspillage, des buildings qui restent allumés, des buildings qu'on chauffe le dehors. On en a plein, des exemples comme ceux-là. Puis dans le fond, notre production d'énergie, elle, là, je tombe dans des gros sujets, mais c'est pas compliqué. Okay. La production d'énergie, elle doit être aussi, elle doit avoir la capacité de fournir dans le pic d'énergie. Donc, si on baissait le pic d'énergie qui a lieu entre 5h et 20h le soir, ça nous permet de faire plus d'affaires avec notre énergie, notamment de décarboner des industries qui polluent à l'heure actuelle, mais qu'en ce moment, on doit fournir beaucoup, 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 beaucoup entre 17h et 20h parce qu'on fait notre souper, on part la sécheuse.
Oui, c'est l'hiver.
Puis c'est l'hiver, puis on gèle, puis c'est bien correct.
On veut plus de véhicules électriques.
Mais si on était capable de consommer juste un peu moins dans le pic d'énergie, ça ouvre une criale de possibilités qu'on peut faire avec notre énergie propre.
Ce qui fâche les gens aussi, c'est qu'il y a un petit manque de cohérence. Tu viens de le dire, les fameux buildings qui restent allumés toute la nuit, qui commencent par tout fermer de ton bord, le gouvernement, puis nous, après ça, petit peuple, on va s'organiser.
Je suis d'accord avec vous.
C'est peut-être moi qui n'ai pas un cercle d'amis très, très, très élaboré, là, mais je ne connais pas personne l'hiver qui met le chauffage au fond puis qui ouvre les fenêtres. Là.
Non, mais ça nos maisons sont mal isolées. Puis c'est pas de la faute du monde. Puis, tu sais.
On a les maisons les plus isolées en Amérique du Nord, au Québec.
Nos bâtiments, notamment. Là,
oui, parce qu'il y a des normes, on est les meilleurs. Oui,
mais on peut être les meilleurs. Mais il y a un gaspillage. Dans la question d'être, disons, plus efficient avec notre énergie, puis de moins gaspiller, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus.
Parce que si on veut embarquer sur l'énergie propre maintenant, le moyen le plus propre de produire l'énergie, c'est le nucléaire. C'est le nouveau nucléaire. Il y a 19 centrales nucléaires au Canada. Il n'y en a plus une au Québec. On a fermé Gentilly.
Ouais,
c'est en train de refroidir. Mais partout ailleurs dans le monde, ça fonctionne le nucléaire. Le nouveau nucléaire, pas l'ancien.
Puis pas loin, vous n'avez pas besoin d'aller loin. En Ontario, c'est le cas. Puis c'est une énergie qui est propre. On a toujours le même problème de comment on gère nos déchets, là. C'est toujours un enjeu.
J'ai l'impression, pour finir ça, si on veut, parce que ça, c'est un peu la question un peu de notre discussion aujourd'hui, là, tout ce qui est intérêt des jeunes, de la population envers la politique, les « woke ». Les fameux woke.
Les woke!
Non, mais.
Ils sont partout.
C'est une forme de politique en même temps dans la nouvelle génération parce que ça crée aussi ce mouvement-là, les woke, des anti-woke. Fait que, veux, veux pas, j'ai comme l'impression qu'il y a quand même une forme de politique à travers tout ça, mais pas la même qu'au gouvernement. T'sais, y a-t-il un petit manque de communication? C'est-tu ce qu'on essaie de créer avec la prochaine génération?
C'est intéressant la question des woke. Premièrement, j'aimerais déclarer une chose, on est toujours le woke de quelqu'un.
C'est vrai ça.
Je me suis fait traiter de woke plusieurs fois cette année.
Moi, ça m'est jamais arrivé, je sais pas pourquoi.
Ouais, toi, t'es comme un petit peu plus au bout du spectre woke.
T'es comme l'anti-woke.
Tout le monde doit te sembler tellement woke, Yannick, au quotidien, ça doit être lourd des fois. En fait, le wokisme, c'est une forme de militantisme. Puis le militantisme, ça a toujours existé. C'est juste que là, la forme que ça prend en ce moment, c'est beaucoup celle-là. Puis c'est beaucoup importé des États-Unis, en fait. Hein. C'est souvent, des fois, c'est pour ça que moi, des fois, ça me fâche, puis je trouve que ça n'a pas rapport dans notre contexte, parce qu'on essaye d'imposer un spectre de pensée qui n'a pas nécessairement rapport au Québec, notamment sur les questions de racisme, sur les questions autochtones aussi. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de réconciliation. Puis souvent, là, on nous parle à travers un spectre qui n'est pas celui qui est historique au Québec, puis par rapport aux Premières Nations. Fait que le wokisme, c'est une forme de militantisme. Puis comme je vous le disais d'entrée de jeu dans la discussion, moi, je pense que toute implication dans notre communauté est positive. Moi, je ne me considère pas comme étant woke. Ce n'est pas une approche à laquelle j'adhère beaucoup. Mais je trouve ça préférable des gens qui s'impliquent, même si c'est à travers cette lunette-là, que des gens qui ne s'impliquent pas du tout. Je pense que ça va être une des modes qui va passer, puis que le militantisme, il y a toujours un balancier puis un pendule qui vient d'un côté ou de l'autre.
Moi, je pense qu'on a besoin des woke comme on a besoin des gens qui sont un peu plus extrémistes. Puis quand on s'entend par extrémisme, là, tant que ça fait pas mal à personne, mais on a tous besoin de cette belle gang-là. L'important, c'est que tout le monde puisse s'écouter puis d'accepter qu'on peut changer d'idée des fois parce qu'on s'est peut-être trompé. Il y a peut-être des choses auxquelles on n'a jamais pensé.
Puis d'accepter que la personne en face de toi va peut-être pas finir la discussion en disant « t'as raison, j'ai changé d'idée ». C'est bien correct.
La société, c'est jamais bâti avec des gens conformistes. Là.
C'est des belles paroles, ça, Caroline.
Je m'excuse.
C'était beau, hein? C'était énorme.
C'était Audrey qui était supposée dire ça.
Je te laisse le mot de la fin, là. Je peux rien ajouter là-dessus.
Antonine Yacaridé, on peut te suivre, vous, là? T'es-tu à télé ce soir?
Ce soir, non, mais je serai jeudi à nouveau au débatteur. Où est-ce qu'on débat dans le respect et qu'on essaie de faire avancer les idées, qu'elles soient woke ou non?
Merci d'être passé.
Bye.
Bye-bye. Rage Against le matin.